Malgré tout ce qui peut se passer dans nos vies, on a toujours cette possibilité de te louer, Seigneur. Quelque manière que ce soit, Seigneur, on peut te chanter, on peut te prier, mais nos cœurs peuvent toujours continuer de te louer. Merci pour ta parole que tu nous as laissée, merci pour ton esprit que tu as déversé sur nous, qui chaque jour, Seigneur, nous accompagne, chaque jour nous remplit et avec nous, en nous. Il nous montre que tu es pour nous, Jésus. Merci parce que, Seigneur, chaque jour, nous pouvons sentir ta présence, nous pouvons avancer avec confiance. Tu es un Dieu glorieux, un Dieu immense, Seigneur, un Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et malgré tout, Seigneur, tu es un Dieu qui t'occupe de nous chaque jour, qui nous fait grâce jour après jour, qui est patient envers nous. Merci pour tout, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Tu t'occupes si bien de nous, Jésus. Merci.
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, puissance de ton nom.
Digne es-tu,
digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier de ton saint nom. Dieu de gloire.
Merci Jésus pour ce que tu fais dans nos vies. Notre en gloire, Seigneur. Toi soit toute la gloire, Jésus.
Seigneur, on te remercie de ce que encore aujourd'hui, tu restes le Dieu qui est digne de louange et d'adoration. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Et alors qu'on est dans ta présence, nous voulons encore nous rappeler combien tu es digne, digne de louange et digne d'adoration. Seigneur, c'est juste tellement bon d'être dans ta présence, tellement bon de savoir que tu nous bénis, que tu es là avec nous. Seigneur, merci parce que tu es là et tu es présent. Seigneur, alors qu'on va continuer dans ce culte, je te prie que ta présence viennent continuer à réchauffer, à toucher nos cœurs. Nous voulons croire que tu es au-dessus de tout, que tu règnes, que tu es le Dieu de gloire. Merci, Père éternel, pour ce que tu nous apportes, ta fidélité et ton amour. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Est-ce qu'on n'a pas un Dieu de gloire? Ce Dieu à qui on ne réserve pas la première place, mais à qui on réserve l'unique place. Celui qui est au-dessus de tout, celui qui règne. Et quand on passe ce temps dans la louange et l'adoration avec l'équipe ici, on est tous ensemble à se dire, mais ce n'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour lui. À cause de son grand amour, à cause de ce qu'il a donné pour toi, pour moi. Et c'est tellement bon d'être dans sa présence. Merci à l'équipe de louange de nous avoir conduits au pied du maître, à considérer qu'il est digne de gloire et de louange. Et je crois que c'est tellement bon d'être dans sa présence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors si vous êtes d'accord, mettez-nous un petit mot dans le chat pour dire amen, pour dire on est là avec vous. Ça nous fera plaisir d'être ensemble. Quelques annonces maintenant. Simplement, je vous rappelle qu'avec l'équipe pastorale, on reste à votre disposition, on reste joignable au numéro de téléphone qui va s'afficher sur l'écran que vous allez voir. ainsi qu'à l'adresse mail qui également va s'afficher sur l'écran. Et n'hésitez pas à nous mettre un message, n'hésitez pas à nous mettre un petit mail, on sera heureux de pouvoir y répondre, on sera heureux de pouvoir partager, échanger ensemble. Certains d'entre vous le font déjà, alors n'hésitez pas pour qu'on puisse garder le contact. C'est vrai qu'on est loin, mais on croit qu'on est encore près dans le cœur. Et que pour nous, l'équipe pastorale, il est vraiment important de vous dire qu'on ne vous oublie pas. Vous êtes dans notre cœur et notre cœur, il est là pour l'épi. J'aimerais vous donner quelques nouvelles du rassemblement CAP. On a fait, alors CAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le congrès annuel de Pentecôte. C'est pour les jeunes de la région Est. Et hier, on avait la joie d'avoir deux lives, c'est-à-dire deux réunions préenregistrées, et puis des temps d'atelier. Et on a pu toucher beaucoup de jeunes et ados de la région Est. Et on bénit Dieu pour les temps de qualité. Si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, vous allez sur CAP Est sur YouTube et vous verrez les replays. Mais on a été bénis, la jeunesse a été bénie, les ados ont été bénis. Vous savez, même pendant le confinement, les jeunes et les ados, ben, ça n'a pas été évident pour eux non plus. Et le fait de pouvoir leur proposer du contenu, de pouvoir les bénir et les encourager, je trouve que c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Alors, on bénit Dieu pour toutes ces équipes qui bossent pour eux. Et merci de prier pour les jeunes et pour les moins jeunes, mais entre nous. Merci de prier pour toutes les générations. On prie pour chacun, chaque membre de l'EPI. On bénit le Dieu de ce que l'église de l'EPI est une église multigénérationnelle. Et ça, c'est extraordinaire. En ce qui concerne la reprise des cultes, comme vous le savez, on a eu pas mal d'informations comme quoi on pouvait reprendre les cultes, etc. Avec notre famille d'église, les Assemblées de Dieu, il a été décidé pour la région Est de ne pas réouvrir notre lieu de culte avant le 10 juillet minimum. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Simplement parce qu'il nous est très compliqué, voire impossible, de pouvoir respecter l'ensemble des gestes barrières. Et pour nous, il nous paraît sage de vous préserver. On vous aime trop pour vous mettre en danger. Et on veut faire attention et on veut être vigilant. Alors avec le conseil d'administration de l'EPI, avec le conseil d'anciens de l'EPI, nous sommes réunis et nous avons pris la décision d'aller au minimum jusqu'au 10 juillet, puis nous nous adapterons en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation sanitaire en France. Pour autant, on reste connectés. Nous aurons toujours nos cultes live, nous serons toujours là chaque dimanche pour vous bénir, pour vous encourager, on ne vous oublie pas. Je sais que c'est dur et c'est long pour vous, on veut bien le considérer et vraiment on l'a pris en question, en compte. Mais je veux vraiment vous encourager en vous disant on ne vous oublie pas et on veut vous protéger, on veut faire les choses de la meilleure des façons. Merci de votre compréhension, je sais que vous êtes avec nous et que vous priez pour ça. Alors justement, si on ne peut pas se retrouver en physique, je vous propose qu'on se retrouve pour un jeûne et prière. On vous en a parlé la semaine dernière. Le jeûne et prière va commencer à partir de mardi, c'est-à-dire mardi, là aujourd'hui on est dimanche, donc lundi et mardi. Donc ça commence mardi prochain. Et on va partager ensemble via Zoom, la plateforme Zoom. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une plateforme où on peut être tous ensemble, on se voit, on peut échanger, on peut prier ensemble, on peut se répartir dans des salles, on va avoir des temps juste d'échange et de partage. Vous ne savez pas vous connecter ? Allez sur le site de l'EPI. Et sur le site de l'EPI, vous allez avoir un lien qui va vous permettre de soit télécharger l'application, soit directement depuis votre ordinateur de pouvoir nous rejoindre. Vous allez rentrer, on va vous accueillir et vous nous verrez, l'équipe pastorale, et on sera en direct, en live. Donc sur Zoom, le jeûne et prière, il est important qu'on puisse se retrouver ensemble, qu'on puisse intercéder, jeûner, prier. On a des sujets importants à partager avec vous. Alors rejoignez-nous à partir de 19h et ça commence mardi 2 juin. Et on sera tellement heureux d'être avec vous. Donc de 19h et puis l'heure de fin, on verra un petit peu comment ça va tourner. Vous avez toutes les informations sur le site de l'EPI. J'aimerais maintenant qu'on puisse se préparer pour entendre le message que le pasteur Michel Schneider va nous apporter dans ce week-end de Pentecôte. Je pense que ça va être approprié. Et avant ça, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et préparer nos cœurs à dire « Seigneur, prépare mon cœur et que je puisse recevoir ce que tu as à me dire. » Vous êtes d'accord avec ça ? On y va ensemble ? Seigneur, on te remercie déjà pour ce que tu as semé dans nos cœurs à travers la louange et l'adoration. Maintenant, la prière de nos cœurs, c'est qu'à travers le message, tu viennes nous chercher, tu viennes nous percuter, tu viennes parler à nos cœurs, tu viennes nous inonder. Je te prie pour que Michel soit inspiré particulièrement. Je te prie qu'il y ait une onction particulière sur sa vie et qu'à travers ce qu'il va partager, nos cœurs soient bouleversés. Nous savons que tu veux nous parler. Alors nous te bénissons de ce que maintenant le rendez-vous est fixé. Tu es là, au milieu de nous. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de pouvoir vous saluer via les techniciens qui font un travail remarquable et j'aimerais remercier toute l'équipe technique. Il y a eu un petit souci tout à l'heure, mais ils ont géré la situation et donc on est tellement heureux que vous soyez derrière vos écrans, mais vous êtes surtout dans nos cœurs. Merci à Malik, à l'équipe de Louange et merci à toute l'équipe de techniciens. On pense très fort à vous tous, surtout à nos personnes âgées, on pense à ceux qui sont seuls, à ceux qui passent une saison de deuil, et puis on pense à tous ceux qui ne sont pas connectés à Internet. Alors, l'équipe pastorale, évidemment, le pasteur Pierre-Samuel vient de dire que nous faisons notre possible pour rester connectés, mais sentez-vous aussi la liberté de vous appeler les uns les autres, de vous contacter et de vous encourager mutuellement. Et je voulais aussi vous remercier pour vos encouragements. On a eu deux cartes assez récemment. Une carte de quelqu'un qui nous écrit, chers frères et sœurs, « À vous qui travaillez dans l'ombre, mais avec efficacité et zèle pour nous servir, toute ma gratitude, mes encouragements à tenir bon avec le secours du Seigneur. Prenez soin de vous et soyez bénis. Affection en Jésus. » Signé Denise. Et puis, cette carte touchante aussi de Bernard et de Sophie qui nous écrivent « Vous avez su comprendre et partager notre vive et profonde peine suite au décès de Christine. Nous souhaitons vous remercier des touchantes marques de sympathie et de soutien dans ce moment douloureux et nous vous témoignons toute notre reconnaissance. Merci pour vos encouragements. Merci, ça nous fait chaud au cœur, ça nous touche et nous voulons vraiment vous bénir et vous servir de tout notre cœur. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pentecôte et c'est pour nous l'occasion de nous replonger dans les textes pour redécouvrir le message de Pentecôte, sa signification, mais aussi son actualité. Le livre qui nous parle le plus de la Pentecôte, c'est le livre des Actes des apôtres. C'est un livre, le livre des Actes des apôtres, qu'on pourrait aussi intituler le livre des Actes du Saint-Esprit. Notre église, vous le savez, s'appelle l'EPI, l'église de Pentecôte internationale de Strasbourg, et nous sommes particulièrement attachés à cette dynamique du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Notre famille d'église, c'est les Assemblées de Dieu de France, un mouvement évangélique qui est né dans les années 1930 au Havre. C'est une jeune femme, Hélène Biollet, qui a eu à cœur de se rendre au Havre. C'est une Suissesse à l'origine. Elle a ouvert une maison, un hôtel-restaurant sans alcool, parce qu'elle avait à cœur de s'occuper des personnes alcooliques. Mais non seulement elle voulait s'occuper des personnes alcooliques, elle voulait aussi faire de ce lieu un centre spirituel. Et c'est comme cela qu'elle a invité des gens comme Donald G., comme Douglas Scott, qui était le fondateur du mouvement de Pentecôte en France. Et c'est notre famille d'église et nous y sommes profondément attachés. Sur les 500 millions de chrétiens évangéliques dans le monde, il y a à peu près une centaine de millions de pentecôtistes. Et en tant qu'EPI, je pense que c'est important que nous le redisions et nous le sachions, en tant qu'EPI, nous désirons être une église de Pentecôte biblique actuelle selon le modèle du Nouveau Testament. Les pentecôtistes, malheureusement, n'ont pas toujours été sages dans l'expression de leur foi. Il y a eu des excès. Il y a eu des écarts, de l'exubérance, il y a eu du désordre. Mais ce n'est pas nouveau. Déjà, chez les Corinthiens, l'apôtre Paul est obligé de leur envoyer une lettre pour leur dire comment se comporter à l'occasion des rassemblements et notamment des cultes. Et de même, les pentecôtistes ont parfois confondu fruit et bruit. Et il y a eu aussi, il faut le dire et le reconnaître, et nous en sommes profondément désolés pour ceux et celles que cela a fait fuir. Il y a eu de l'arrogance, il y a eu de la condescendance, il y a eu de l'orgueil. Comme si le fait d'être au bénéfice d'expériences surnaturelles nous autorisait à nous croire supérieurs aux autres chrétiens. Quel dommage. Parce que lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas pour se pavaner, mais c'est pour bénir et servir les autres. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Voilà l'objectif du baptême du Saint-Esprit. Alors une première lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et à partir du verset 1er. Actes chapitre 2, verset 1er. Je lis dans la version second 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Luc, qui a écrit le livre des Actes à la suite de son évangile, l'évangile de Luc, nous raconte en détail, il était médecin, ce qui s'est passé. Il y a ici trois manifestations. La première, c'est le bruit d'un vent puissant, un vent violent. Je rappelle que le Saint-Esprit, un des noms du Saint-Esprit, c'est Ruach dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, ou pneuma en grec, qui veut dire souffle, vent. Pneuma a donné en français pneumatique. Et d'ailleurs, les dons spirituels s'appellent les pneumatikos, les spirituels. Jésus avait dit déjà, l'Esprit souffle où il veut. Et dans cette chambre haute, c'est un environnement idéal pour le Saint-Esprit pour venir. Le pasteur Pierre Samuel a parlé de temps de jeûne et prière que nous allons vivre ensemble, et je crois que c'est un temps idéal, c'est un environnement idéal pour le Saint-Esprit pour qu'il vienne et souffle dans nos vies et fasse son œuvre en nous. La deuxième manifestation, c'est l'apparition de petites flammes, de flamèches, comme des langues de feu sur chaque participant. Le Saint-Esprit est l'être le plus sensible qui soit. Et il vient vers nous, chacun, de manière personnelle, individuelle. Il respecte chaque être humain en particulier. Il ne travaille pas à la chaîne. Nous ne sommes pas perdus quelque part dans la foule ou dans la masse, mais nous sommes une personne à part entière pour lui. Et il ne fait pas un travail en nous pour faire un chrétien standard et venir nous mouler dans un moule quelque part. Il nous donne notre originalité et nous donne aussi notre liberté. L'expérience de Pentecôte est une expérience personnelle. Là où tu es, tu peux la vivre. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Dieu nous connaît personnellement et nous sommes tous uniques. Nous avons un parcours qui est unique. Nous avons des vies différentes, nous avons des fragilités différentes, nous avons des tentations différentes, nous avons des besoins différents. Et le Saint-Esprit est parfaitement capable de toucher ta vie de manière personnelle. Alors ce n'est pas parce que j'ai été rempli du Saint-Esprit de telle manière qu'il en sera de même pour toi. Ne cherchons pas à copier l'expérience d'un autre. Soyons nous-mêmes, nous sommes uniques. Puis la troisième manifestation, qui est sans doute la plus impressionnante, c'est le parler en langue. Les 120 disciples ont été rendus capables de parler un langage qu'ils n'avaient jamais appris. Et ce phénomène s'appelle la glossolalie. Dans les années 70, il y a eu dans notre pays de France et aussi en Europe, mais aussi dans notre région, en Alsace-Lorraine, un mouvement de l'esprit, un mouvement charismatique. Et à ce moment-là, les quelques ressources que nous avions se trouvaient être le livre de John Cheryl. C'est un journaliste qui a écrit donc dans les années 70, « Il parle en d'autres langues ». Il est devenu très très populaire, en tout cas dans ma région, et avec le groupe de jeunes à l'époque, on a lu ce livre. Et voilà ce qu'écrit ce journaliste John Cheryl en parlant de se parler en langue. Il dit « Du très fond de moi-même, d'une profondeur d'où j'ignorais que la voix fut capable de venir, jaillit un torrent de sons joyeux. Les syllabes venaient d'elles-mêmes, déjà toutes formées. Je n'avais nullement le sentiment que la situation échappait à mon contrôle. Jamais je ne m'étais senti plus réellement maître de moi. Et il écrit d'autres choses assez remarquables. Alors, il existe deux types de parler en langue. Le parler en langue qui nous est donné pour notre utilisation personnelle dans le cadre de notre vie de prière personnelle. Et puis, il y a le parler en langue qui est destiné à un auditoire lors de rassemblements ou de cultes, par exemple. Et dans ce cas, il doit être interprété. Lorsque l'épi était encore au centre-ville, dans la rue du Faubourg de Pierre, et là, je parle aussi un petit peu, c'est de la génération passée, mais c'est important que la jeune génération se mette aussi au bénéfice des expériences qui ont été vécues. Et ça a été assez remarquable lorsque l'église se trouvait donc au Faubourg de Pierre. Le papa de Gabriel Lutz, le beau-père de Yves Lutz, un dimanche matin, se lève en plein culte et commence à parler en grec. Alors il faut dire, à ce moment-là, nous avions une classe de grec. Evelyne nous faisait quelques cours et nous décortiquions quelques passages du Nouveau Testament en essayant de découvrir le sens original de ce qui avait été écrit. Alors on était tout fiers de faire du grec et voilà que quelqu'un qui n'a jamais appris un seul mot de grec s'exprime de manière propre, pure. On était scotchés. Alors, attendez, c'est pas tout. C'est qu'il s'exprime dans un grec clair et quelques instants après, il donne l'interprétation de ce qu'il a dit. On était retournés. Et c'est ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Les pèlerins qui étaient rassemblés entendent leur langage. Le parler en langue est un signe évident du baptême du Saint-Esprit, que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Mais il y a aussi d'autres indicateurs qui montrent que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Par exemple, Actes 2,14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte. Quand on connaît un peu le parcours de Pierre, il n'a pas toujours été debout. Et voilà que le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, il se tient debout. Et là, c'est une indication aussi pour chacun d'entre nous. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est pour que nous puissions nous tenir debout. Et nous avons été créés, mes amis, pour nous tenir debout. Non pas pour être courbés, non pas pour être couchés, mais pour nous tenir debout. Alors Pierre, debout, avec les 11, s'exprime d'une voix forte. Le Saint-Esprit nous donne aussi du courage, de l'audace, de la hardiesse pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Vous serez mes témoins. Acte 4,13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. C'est miraculeux. La question de l'assurance, acte 4.31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà quelques indications. Peut-être aussi la puissance, acte 4.33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Puissance, le mot dynamis, qui a donné dynamo, dynamique, dynamite. Acte 1.8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est pas une ambiance, il n'est pas une énergie, il n'est pas une atmosphère, il est une personne, la troisième personne de la Trinité. Et je voulais vous encourager, non pas seulement à chercher des dons, à chercher des manifestations, mais d'abord à développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit, avec Dieu, le Père, avec Jésus. Alors, voyons maintenant dans quel contexte le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Avant de voir la signification, voyons un petit peu l'environnement de la venue du Saint-Esprit. D'abord, Pentecôte vient d'un mot grec qui s'appelle Pentecoste, et sous-entendu, héméra, c'est-à-dire le 50e jour. Le 50e jour. C'est l'une des fêtes juives importantes de l'année, Shavuot, c'est-à-dire la fête des semaines. Elle avait lieu à Jérusalem 50 jours après Pâques. Rappelons-nous, Pâques, une référence à la sortie d'Égypte, où le chef de famille, avec sa famille, devait sacrifier un agneau, et le sang ainsi retenu devait être placé sur les linteaux, sur les portes, et l'ange exterminateur passait, et la famille ainsi avait été au bénéfice de la protection du Seigneur. Et cette grande sortie d'Égypte, la Pâque, l'agneau sacrifié, en référence à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Et tout ce qui est ainsi inscrit dans l'Écriture converge vers Jésus. Il est l'agneau sacrifié pour nous. Et donc, à la Pentecôte, 50 jours après Pâques, a lieu cette fête, et c'est dans le cadre de cette fête que le Saint-Esprit est descendu. Alors, cette fête donnait lieu à des rassemblements, mais aussi à des festivités, à beaucoup de joie. Et c'est intéressant parce que Dieu a choisi le moment de l'année où étaient rassemblées toutes les nations pour envoyer son Saint-Esprit. C'est vraiment intéressant. Actes chapitre 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Les disciples sont des galiléens. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des gens qui n'avaient pas beaucoup d'instruction et pas beaucoup d'éducation. D'ailleurs, les moins éduqués du pays. Et Dieu se plaît. Quel humour! Et là, on voit le cœur de Dieu. Dieu se plaît à se servir de ce qui est fragile, de ce qui est faible, de ce qui est parfois insignifiant pour confondre les choses fortes. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Cela nous dit quelque chose du cœur de Dieu. Les commentateurs bibliques s'accordent pour dire qu'il y avait, au cours de ce pèlerinage à Jérusalem, entre 20 et 25 langues et dialectes qui étaient représentés. Dieu s'intéresse donc à toutes les nations. Il est concerné par chacune d'elles. En fait, Dieu n'oublie personne. Dieu ne t'oublie pas. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Ça, c'est le cœur de Dieu. Les pentecôtistes ne sont pas focalisés sur eux-mêmes, sur leurs besoins, sur leurs projets, mais ils ont reçu de la part de Dieu un mandat missionnaire, fait de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voilà donc pour le contexte. Voyons maintenant le message de Pentecôte. Acte 2, verset 11 nous dit « Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Le message de Pentecôte est un message accessible. Ils les entendent parler dans leur langue maternelle. Pour l'ancienne génération de l'Épi, vous vous souvenez peut-être de ce moment où nous avions reçu le pasteur Ngidi, qui venait de l'Afrique. Et il était Zoulou. Et à un moment donné, il était avec nous pendant quelques jours d'enseignement biblique. Et à un moment donné, dans une réunion, il y a un chrétien dans l'assemblée qui commence à parler en langue avec des formes bizarres, de claquements de langue. Je ne pourrais pas vous refaire la chose. Et puis on s'est dit, ça y est, voilà, qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il donne une interprétation. Et lorsque le pasteur Ngidi, Zoulou, est arrivé sur l'estrade, il nous dit, ce que cet homme a parlé à l'instant, c'est mon dialecte que l'on parle dans le village de Mabrousse. Wow. Et il est en train de nous dire combien Dieu est bon et combien Dieu vous veut bénir, combien Dieu est proche de vous, qu'il n'est pas éloigné, mais qu'il vous aime. Et ce Dieu n'a pas changé, c'est le même. Celui qui était hier, aujourd'hui, éternellement, il a ce langage d'amour, il nous dit des merveilles. Et celui qui est le plus merveilleux de tous, d'ailleurs c'est son nom, c'est Jésus. Et tout cela converge vers une personne, la centralité de Christ dans ce qui est dit, dans ce qui est annoncé. Les disciples sont porteurs d'un message qui touche le cœur des gens. Ils proclament les merveilles de Dieu. Et Pierre va expliquer ce qui est en train de se produire. Parce que, comme d'habitude, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui s'opposent, il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui sont étonnés, et puis il y a ceux qui ont vraiment à cœur de comprendre et de saisir l'occasion ici de connaître le Seigneur. Actes chapitre 2, verset 14 nous dit « Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. » Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Oui, parce que certains disent, ça y est, ils sont sous. Non, parce que c'est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et Pierre explique que c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu qui cherche à toucher les nations et à sauver le plus grand nombre possible. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors la venue du Saint-Esprit, elle s'inscrit très nettement dans le plan de Dieu. Et l'accomplissement de la prophétie de Joël 3, ici, se réalise. C'est ce que le prophète avait annoncé. En fin de compte, quand on lit tout cela, on se dit que c'est le ciel qui fait irruption sur la terre. Il fait irruption sur la terre pour apporter une bonne nouvelle, pour apporter des temps de rafraîchissement, dira Pierre, pour apporter les merveilles. Ce Jésus que vous avez livré, dira-t-il, et qui a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, et nous en sommes témoins. Et alors, à l'écoute de ce message, bien sûr, les pèlerins sont bouleversés. Et ils ont le cœur, littéralement, transpercé. Alors pourquoi les cœurs sont-ils transpercés? Pourquoi sommes-nous touchés? Bien parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle touche nos vies, elle touche nos cœurs. Ce n'est pas la parole des hommes. Le message de Pentecôte s'appuie sur la parole de Dieu. La véritable Pentecôte, elle est fondée sur l'Écriture. Elle est fondée sur la Bible. Acte 2, 40, par beaucoup d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, etc., etc. On ne peut pas parler de Pentecôte si la Bible n'est pas centrale, si elle n'est pas au centre du message. Beaucoup de chrétiens cherchent des bénédictions, cherche des manifestations, cherche à vivre des expériences. Mais pour avoir accompagné des hommes, des femmes de Dieu et des vieux pasteurs pentecôtistes, je peux vous dire qu'il n'y a pas de manifestation sans message. Il n'y a pas de puissance sans prédication. Il n'y a pas de divin s'il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas d'esprit s'il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de témoignage sans théologie systématique. D'ailleurs, c'est intéressant. Le réveil de 1906 aux États-Unis, réveil pentecôtiste, c'est une femme qui a été baptisée du Saint-Esprit. Ça a eu lieu dans une école biblique, Azusa Street. Les profs étaient rassemblés autour de la Bible avec les étudiants, et les étudiants avaient à cœur de chercher dans la parole de Dieu, comment être baptisé du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Et c'est une femme, comme c'est souvent le cas, courageuse, qui a dit « Moi, j'aimerais vivre cette expérience ». Alors, l'un des professeurs a prié pour cette jeune fille et elle a commencé à parler en langue. Et c'est à partir de ce moment-là, en 1906, qu'est né le réveil de Pentecôte. Pas de témoignage sans théologie systématique. L'étude suivie et ordonnée de l'enseignement biblique. Théologie systématique, c'est par exemple quand on prend un sujet donné et qu'on l'analyse, qu'on l'étudie et qu'on fait des recherches de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour nous donner une vision d'ensemble, un enseignement qui soit ordonné, qui soit suivi. Alors la théologie, ce n'est pas l'apanage des théologiens seulement, n'est pas réservé aux théologiens, mais l'étude systématique de la parole de Dieu est importante pour tous les chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle, à l'EPI, on organise des sessions de formation. Ça commence avec le baptême, ça se poursuit avec une vie de disciple, sans parler des cours INSTE, etc., des cours de formation où on lit la Bible en équipe, en groupe, et on décortique la parole de Dieu pour y extraire toute la substance et nourrir sa foi. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne nous dispense pas de réfléchir et d'étudier la Bible. L'Esprit ne s'oppose pas à la lecture, à la réflexion et à l'étude de la parole. L'apôtre Paul dira à Timothée, « Applique-toi à la lecture, travaille et que tes progrès soient évidents pour tous. » L'un de mes mentors, qui est décédé maintenant, le pasteur Adolphe Rutz, un pasteur suisse qui était un apôtre, qui était fondateur de beaucoup d'églises en Suisse, était un homme rempli de l'Esprit. Certains le connaissent parce qu'il a souvent été un orateur dans le cadre de nos rassemblements de jeûne et prière. C'est un homme rempli de l'Esprit, mais également profondément enraciné dans la parole de Dieu. Je me souviens que nous avons passé des heures dans son salon à étudier, à travailler, à rechercher les textes et on a eu des heures et des heures de discussion autour de textes de la parole. Et lorsqu'on voyageait ensemble, je portais sa valise et dans sa valise, il y avait plus de livres que de vêtements. Et tous les vieux pentecôtistes sont comme ça. Ceux que j'ai connus, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, ceux avec qui j'ai eu l'occasion de servir, de travailler, d'exercer le ministère, je pense à un certain nombre, ils avaient énormément de livres dans leur valise. Et dès que les réunions étaient terminées, ils montaient dans leur chambre et ils mettaient le nez dans les commentaires bibliques et dans la Bible. Ça devrait être la marque du pentecôtiste, la parole de Dieu autant qu'une vie de prière. Et puis, je termine avec ce troisième aspect, l'actualité de Pentecôte, pour nous dire que nous avons un Dieu qui veut toucher tous les êtres humains. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur tout homme, tout être humain. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont été touchées et baptisées, puis intégrées à l'église locale. Dieu veut toucher toutes les nations. Dieu veut toucher tous les âges. Dieu veut toucher toutes les classes sociales. À l'époque du Nouveau Testament, il existait une grande disparité sociale. Des esclaves encore. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a plus de grands ou de petits. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes serviteurs et nous sommes servantes. Les disciples ont connu un baptême du Saint-Esprit et par la suite, ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est le mot qui revient le plus souvent après. Comme pour nous indiquer qu'il y a une première expérience, certainement, dans la vie de quelqu'un, mais par la suite, nous avons besoin de revivre, d'être remplis tout à nouveau. D'ailleurs, les textes dans l'original le disent. « Soyez remplis du Saint-Esprit », dira l'apôtre Paul. Aux Éphésiens, il dira « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et le texte original dit « Soyez continuellement en train de vous remplir du Saint-Esprit. » C'est donc une expérience qui est à vivre au quotidien. N'avons-nous pas besoin d'être renouvelés dans notre force, dans notre courage, surtout dans cette période difficile? N'avons-nous pas besoin d'inspiration? N'avons-nous pas besoin d'être inspirés par le Saint-Esprit pour prendre de nouvelles initiatives? C'est aussi un esprit créateur, créatif. N'avons-nous pas besoin d'assurance? Tu ne peux pas vivre sur tes acquis. Merci Seigneur pour les expériences d'hier, mais nous avons besoin aujourd'hui de vivre, de revivre l'expérience de Pentecôte. Non pas seulement être des pentecôtistes de nom, de titre, mais à aspirer au quotidien à être remplis, comme les premiers chrétiens. Paul dira à Timothée, « Ranime le don que tu as reçu. » Voulez-vous, dans cette période de Pentecôte, avec moi, prier pour être renouvelé, pour ranimer aussi le don que Dieu nous a donné. Que ce temps de Pentecôte soit vraiment l'occasion d'être visité, d'être renouvelé, d'être rempli pour toi-même, pour ta famille, pour ta situation professionnelle, pour ton entourage, ton environnement. Bref, pour être un chrétien témoin là où le Seigneur t'a placé. Voulez-vous prier avec moi pour que le Seigneur renouvelle nos vies et nous remplisse tout à nouveau? Nous te remercions, Seigneur, pour ce week-end de Pentecôte, qui pour nous est l'occasion de réfléchir tout à nouveau à ce qui a pu se passer lors de cette première Pentecôte. J'ai essayé de donner quelques aspects de ce qui a pu se vivre, mais Seigneur, nous avons besoin aujourd'hui, maintenant, d'être rempli tout à nouveau. Je te prie pour tous les amis qui nous écoutent, pour mes frères et sœurs. Je te prie pour l'église de l'Épi. Je te prie pour ceux qui vont nous écouter par la suite. Je prie, Seigneur, pour que tu remplisses, que tu renouvelles, que tu viennes au travers de ton esprit. Ranimer une flamme ici ou là qui a été éteinte. Renouveler un cœur qui a soif de toi. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans les couples, dans les familles, auprès des enfants, des jeunes, des ados, et de manifester l'esprit de Pentecôte. Merci parce qu'il nous attire à toi. Il fait de nous des témoins de Jésus. Tu es mort et tu es ressuscité pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons sauvés, mais pour que nous devenions aussi des témoins pour les nôtres, pour notre société, pour notre monde qui a tant besoin d'entendre parler de toi. Merci de bénir les uns et les autres dans cette dimension du Saint-Esprit. Et à toi, Seigneur, toute la louange et toute la gloire. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ô Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire, ô Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne ta gloire, pour ta gloire, fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les cieux ouverts, déferle sur moi, restaure. Consume-moi ici.
Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom.
Seigneur, c'est à travers ce message que nous réalisons combien tu es proche de nous, combien ce Jésus est avec nous au quotidien. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous pouvons encore le vivre aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose du passé, mais c'est d'actualité encore pour aujourd'hui. Et notre prière, c'est que vraiment, l'Église de l'Épi puisse vivre ce que toi, tu as prévu que nous vivions. Que nous puissions vivre la Pentecôte pleinement au quotidien. Seigneur, nous te remercions de ce que encore aujourd'hui tu agis. Encore aujourd'hui tu consoles, encore aujourd'hui tu guéris, encore aujourd'hui tu baptises, encore aujourd'hui tu renouvelles, tu remplis. Parce que tu es un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci parce que durant ce week-end de Pentecôte, nous voulons nous rappeler combien tu nous accompagnes, combien ta présence est là au quotidien. Et dans nos doutes, dans nos inquiétudes, ton Saint-Esprit vient nous consoler. Dans nos deuils, Seigneur, tu viens nous consoler. Dans nos peurs, tu viens développer la foi. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Parce qu'encore aujourd'hui, nous pouvons vivre ce que tu as prévu que nous vivions. Et Seigneur, je te prie vraiment de visiter chaque personne derrière son écran, de les encourager, de les bénir, de les fortifier, de les renouveler, de les transformer là où il y a besoin d'être transformé. Seigneur, parce qu'en ta présence, Seigneur, il y a des choses qui bougent. Là où est l'esprit, là est la liberté. Et Saint-Esprit, viens visiter nos cœurs, viens nous inonder. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la conduite de ton esprit. Merci parce que tu es là. Tu es notre Dieu, ce solide fondement, celui qui ne bouge pas, qui est inébranlable. Merci Père éternel. Amen. Amen. Waouh. C'est tellement bon de savoir que Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous délaisse pas, mais il nous a laissé son esprit et il nous dit « Je ne vous laisse pas seul ». Alors le message qu'on aimerait vous laisser, c'est durant cette semaine, il ne vous laisse pas seul. Il est avec vous. Le Saint-Esprit est là. On veut vraiment vous encourager à vivre encore durant cette semaine, à rechercher la présence de Dieu, à aller passer du temps, à vous laisser nourrir, à vous laisser remplir par le Saint-Esprit. Michel nous l'a dit, le Saint-Esprit, la Pentecôte est un message d'actualité. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Et on veut le vivre ensemble. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Et je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe, mais en tout cas, que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous renouvelle. Merci à toute l'équipe technique, merci à l'équipe de louange, merci au pasteur Michel d'avoir apporté ce qu'il avait sur son cœur. Et nous croyons que Dieu va encore agir dans cette semaine. À très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le jeûne et prière. À bientôt.